Avant de commencer l'enseignement, Rinpoche nous demande de développer l'attitude de l'éveil. Celle-ci consiste à souhaiter atteindre l'état d'éveil pour le bien de tous les êtres dont le nombre est aussi vaste que l'espace est infini. Et afin d'arriver à ce but, nous devons nous engager dans la pratique de l'étude, de la méditation, de la réflexion et de la méditation sur les enseignements du Dharma. Donc c'est avec cette attitude que nous allons écouter les enseignements.
Tela kang sembar sabe tambe chu jiramba ni tekpa chembe ju la meten ju le sanjo gilebre.
Et le sujet de l'enseignement d'aujourd'hui porte sur le chapitre de l'éveil issu d'un texte qui s'intitule le traité de la continuité ultime du grand véhicule.
Ten sanjo gilebre te locha ma ke lobjo yabo se re locha me jo re. Nghe tsawa te long dung re tene dan dan derwa te lo tsa ma ke de ke to du cha gre chiran kon tsawa te yiru wa ya.
Et ce chapitre a été traduit en français, donc Rinpoche va nous lire et nous donner le long du texte racine du chapitre, dont vous avez aussi reçu la copie en français, et je lirai le commentaire qui a été aussi traduit en français.
Taktop Tarwa Rangin Tung Tetin Satan Jaje Tang Dani Chembo Deyane Chisi Tutan Chetanin.
Donc nous allons lire ensemble chacune des stances que Rinpoche, dont Rinpoche nous donne le long, et ensuite je lirai le commentaire expliquant le sens de chacune des stances. Donc c'est la stance 141, la première. L'éveil possède 8 dharmas: pureté, obtention, séparation, bien pour soi et pour autrui, le fondement de celui-ci, profondeur, vasteté, nature magnanime, durée et réalité telle qu'elle est. Et le commentaire de cette stance explique: l'éveil est l'essence de la réalisation, le fruit parachevé du chemin ou le fruit parfaitement accompli du chemin. Il possède 8 dharmas ou qualités particulières. La première est qu'il est purifié des voiles. La deuxième est qu'il est obtenu au moyen des pouvoirs issus de la voix, c'est-à-dire de la méditation. La troisième qualité, celle donc de la séparation, signifie qu'il est séparé de ce qui est à abandonner. La quatrième correspond au bien pour soi et au bien pour autrui. Il s'agit de l'accomplissement du bien pour soi et du bien pour autrui. La cinquième est qu'il est le fondement de celui-ci, c'est-à-dire le fondement du bien pour soi et du bien pour autrui. Et ceci correspond au fait que l'éveil possède ou est doté des forces et autres qualités telles que les absences de peur, etc., qui constituent le fondement de l'accomplissement du bien pour soi et pour autrui. La sixième qualité est sa profondeur. Et ceci correspond aux trois corps. L'éveil est classé ou classifié selon trois corps, le corps de réalité profond, le corps de jouissance vaste et le corps d'émanation nature magnanime. Donc ceci correspond à ces trois qualités de profondeur, vasteté et nature magnanime. La septième qualité est la durée, qui correspond à la durée de son existence, qui est égale à celle du samsara, c'est-à-dire l'éveil est présent aussi longtemps que le samsara existe. Et la huitième qualité est celle de la réalité, du dharmata, la nature telle qu'elle est, la vraie nature. Donc c'est la nature même de l'éveil, c'est la nature de la réalité telle qu'elle est, donc dharmata en sanskrit.
Mo jotan devatan letan dendan jopatan teta sam chamije sanje san nambriya.
Donc nous lisons ensemble cette deuxième stance. L'état de Bouddha est présenté en huit points: essence, cause, fruit, fonction, possession, manifestation, permanence et inconcevabilité. De ce fait, l'état de Bouddha, l'éveil, le fruit ultime, est présenté en huit points. Donc le premier point est celui de l'essence. Cette essence décrit la double pureté de l'élément. L'élément étant la nature de Bouddha, donc au niveau ultime et au niveau de base. Sa pureté naturelle est celle résultant de la séparation ou de l'élimination des impuretés adventices qui sont à éliminer ou à abandonner. Le deuxième point est celui de la cause. La cause décrit les moyens d'obtention de l'éveil. Et ceci correspond à la pratique du chemin, comprenant la contemplation, la méditation, et l'obtention subséquente, c'est-à-dire la phase qui suit celle de la contemplation. Le troisième point est celui du fruit, qui décrit la séparation d'avec les impuretés des deux voiles, résultant de la pratique du chemin. Le quatrième point est celui de la fonction. La fonction décrit l'accomplissement des deux biens, du bien pour soi et du bien pour autrui, résultant de l'élimination des deux voiles. Ensuite, la possession, le cinquième point, décrit les qualités inconcevables, constituant le fondement de l'accomplissement des deux biens pour soi et pour autrui. Le sixième point, celui de la manifestation, décrit la division ou la classification de l'éveil en trois corps, le corps essentiel, le corps de parfaite jouissance et le corps d'émanation. Le septième point est celui de la permanence. Il décrit le fait que ces trois corps durent aussi longtemps ou sont présents aussi longtemps que l'espace et les êtres. Et le huitième point est celui de l'inconcevabilité de l'éveil. C'est celui du mode d'être ultime tel qu'il est, qui est inconcevable pour les êtres ordinaires.
Rangin vsa hijo kain nyedang kagin lorje nyomon khize trin tso tuk drapa yin deb jorba teme sanje yin ten kunde takten yung rong sanje tena chula mato
L'éveil, décrit comme la claire lumière naturelle, est semblable au soleil et au ciel. Il est exempt des souillures adventices, des voiles des passions et des connaissables qui l'assombrissaient comme de lourds nuages. Permanent, constant et éternel, il est doué de toutes les qualités du Bouddha immaculé. Son obtention repose sur la sagesse qui ne conçoit pas les phénomènes et celle qui les distingue parfaitement. Le Bouddha ou l'éveil, doué des deux qualités de pureté, donc doué de ces deux qualités, la pureté naturelle de l'éveil et la pureté obtenue comme étant le fruit de l'élimination des voiles, est décrit dans les textes de sens définitif comme étant la claire lumière naturelle. Il possède quatre particularités. La première est celle de l'essence. Cette essence de l'éveil est la sagesse, diffuse comme la lumière du soleil, et l'abandon, pur comme le ciel. Donc l'essence est qualifiée de ces deux caractéristiques. D'une part, la sagesse, semblable au soleil, à la lumière du soleil qui pénètre tout, et pure comme le ciel, parfaitement pur, sans nuage. La deuxième particularité est celle de l'abandon des voiles, qui correspond à l'absence des souillures adventices, qui l'obscurcissait comme de lourds nuages, ou qui donc empêchait de voir cette vraie nature présente. Et ces voiles sont ceux des passions et ceux des connaissables, ou ceux qui cachent donc la connaissance ultime. La troisième particularité est celle de la possession des qualités. L'éveil est doté de qualités. La bouddhéité, ou l'éveil, est directement manifestée. Elle est en essence permanente, constante et éternelle, et douée de toutes les qualités du Bouddha immaculé, y compris donc toutes les qualités relatives au Bouddha, comme les forces, les pouvoirs qu'ont les Bouddhas, leurs intrépidités, etc. Et la quatrième particularité est la particularité de la cause d'obtention. L'accomplissement de l'éveil repose sur la pratique du chemin, par le biais ou au moyen des deux aspects de la sagesse. Et ces deux aspects sont l'aspect non conceptuel de la sagesse, c'est celle que l'on réalise ou que l'on met en pratique lors de la contemplation, de la méditation. Donc cette sagesse est non conceptuelle, elle ne pense pas, elle ne conçoit pas les phénomènes, elle les voit directement. Et la deuxième sagesse, ou le deuxième aspect de cette sagesse, c'est la sagesse analytique qui, elle, distingue parfaitement tous les connaissables, tous les phénomènes, dans la phase qui suit la phase de contemplation.
Sanji nyene yelminpa takpu chuje rabsewa nyaman kagin yihitan pamba nyejen tenyito.
Dans l'instant 144, l'éveil de Bouddha est constitué de deux dharmas purs inséparables, les deux caractéristiques de sagesse et d'abandon, semblables au soleil et au ciel. L'éveil de Bouddha est constitué du dharma, ou de la propriété, de la double pureté. Donc il y a deux qualités inséparables du Bouddha qui sont ces deux aspects de pureté, qui correspond au fait qu'il est présent naturellement et de façon inséparable de tout être. Il fait partie intégrale de la nature de tout être, donc c'est la première pureté. Et la deuxième pureté, c'est celle que l'on obtient ou que l'on réalise lorsqu'on a débarrassé cette nature de Bouddha présente naturellement de tout ce qui la recouvre, de toutes les souillures adventices, passagères. Donc sa deuxième pureté correspond à l'état de purification parfaite de cette nature de Bouddha présente naturellement dans tout être. Donc l'éveil réunit ces deux caractéristiques qui correspondent à la réalisation et à l'abandon parfait. Et cette réalisation, on peut la comparer au soleil, parce qu'elle est une qualité lumineuse et inséparable de la sagesse, de cette nature de sagesse présente, semblable au soleil, qui est naturellement clair et lumineux. Et l'abandon, donc l'élimination totale de tout ce qui recouvre cette claire lumière, c'est l'élimination des deux voiles. Et cet abandon, cette élimination, cet état d'élimination parfait est semblable au ciel qui est parfaitement pur et parfaitement clair par nature. Et donc c'est lorsqu'on a réalisé ces deux sagesses que l'on obtient l'éveil, c'est-à-dire cette sagesse non conceptuelle. C'est celle que l'on développe au moment de la méditation, lorsqu'on contemple la vraie nature de toute chose. Et ensuite, lorsqu'on quitte cet état de méditation, donc dans les phases consécutives qui ne sont pas la méditation formelle, lorsqu'on est capable d'appliquer cette sagesse, cette compréhension réalisée lors de la méditation, dans toutes les activités normales de la vie de tous les jours, donc reconnaître la vraie nature de tous les phénomènes, aussi dans un état non contemplatif.
Vaisa se me yer me par jukchen kanga longne dolen de ser sanjin.
L'instant 145. Clair et lumineux, non composé, présent de façon inséparable, le corps de réalité possède toutes les qualités de Bouddha, supérieur en nombre au grain de sable du Gange. Donc ces voiles ou ces souillures, qui sont les voiles des passions et les voiles des connaissables, n'ont depuis l'origine jamais eu de nature propre ou d'existence réelle. Ils se répandent, sont présents ou diffus dans chaque instant d'existence impure, c'est-à-dire d'existence où l'on n'a pas reconnu sa nature de Bouddha, où on n'a pas réalisé sa nature de Bouddha. Donc c'est leur première qualité, ou disons leur premier aspect, c'est qu'ils sont présents dans chaque instant d'existence impure. La deuxième caractéristique de ces voiles, c'est qu'ils sont adventices, ils sont passagers, puisqu'ils peuvent être abandonnés. Donc, la deuxième particularité, c'est qu'ils sont éphémères, et la raison parce qu'ils peuvent être abandonnés est donc leur troisième particularité. Pour ces trois raisons, il est dit des deux voiles, le voile des passions, qui est l'entrave à la libération, et le voile des connaissables, qui est l'obstacle à la compréhension de toute chose. Pour ces trois raisons, donc, on dit qu'ils dissimulent la nature de clair-lumière dans le contexte de la condition des êtres, c'est-à-dire dans le contexte où l'on est un être qui n'a pas encore réalisé sa nature de Bouddha. Ils dissimulent cette claire nature, cette clair-lumière nature de tout être, comme les voiles, comme les nuages qui voile le ciel et masque le soleil passagèrement. Et pour comprendre ceci, Rinpoche a donné l'exemple du rêve. Comment dans un rêve, par exemple, si l'on fait l'expérience d'un feu qui brûle, et on croit donc, parce que l'on rêve, que ce feu existe, en fait, au moment où on prend conscience de rêver, on prend aussi conscience, où on comprend que ce feu n'existe pas, que la souffrance issus de ce feu n'existe pas non plus, donc tout ceci en fait n'a jamais existé, étant de la nature du rêve. Et donc de la même façon, lorsqu'on réalise donc la nature de Bouddha, la nature de l'éveil, on réalise que tout ce qui recouvre cette nature de Bouddha, en fait qui nous empêche de voir notre nature de Bouddha, tous ces voiles des passions et des connaissables, eux non plus n'existent pas réellement, comme les choses n'existent pas réellement dans le rêve. L'instant suivant. La cause d'élimination des deux voiles est la sagesse posée comme étant double. La sagesse, non, je me suis trompée. J'ai donné le mauvais commentaire. Non existant par nature, diffus et adventice, le voile des passions et le voile déconnaissable sont comparés aux nuages. En fait, ce que je vous ai lu avant, c'était le commentaire de cette strophe. Ouais. Je m'excuse. Donc je vous lirai le commentaire de la strophe précédente qui disait que le corps de réalité, donc qui est clair et lumineux, c'est un espace immaculé, clair et lumineux par nature, et il n'est pas composé, il n'est pas un phénomène composé à partir de causes et conditions. Il existe ou il est présent de façon inséparable, comme la nature de tous les êtres, c'est-à-dire tous les êtres possèdent cette nature de Bouddha absolument inséparable de ce qu'ils sont. Et cet éveil possède naturellement et depuis toujours toutes les qualités incommensurables de Bouddha, telles que les forces et autres, qui sont supérieures en nombre aux grains de sable dans les eaux du Gange. La strophe 147. La cause d'élimination des deux voiles est la sagesse posée comme étant double, la sagesse non conceptuelle et la sagesse d'obtention consécutive. Donc ces deux aspects de la sagesse qui réalisent le mode d'être de toute chose, la réalité ultime de toute chose, telle qu'elle est, c'est l'un des aspects de sagesse, de réaliser les choses telles qu'elles sont, leur mode d'être. Et l'aspect de la sagesse qui réalise sa diversité, c'est-à-dire la manifestation multiple de cette vraie nature. Donc elle réalise, on dit en tibétain, autant que c'est, c'est-à-dire la multiplicité de la manifestation de la nature ultime. Ces deux aspects de sagesse, du mode d'être et de sa diversité, constituent la cause de la manifestation directe du corps de réalité et du fruit de libération, car elles éliminent les deux voiles des passions et des connaissables. Les bodhisattvas cultivent ces deux aspects de sagesse en les associant. Lors de la phase de méditation ou de contemplation, ils cultivent la sagesse non conceptuelle, constituant le remède aux trois mondes d'existence, car elle les purifie principalement du voile des passions. Dans la phrase suivante, qui suit donc celle de la méditation, et que l'on nomme en tibétain la phase de l'obtention subséquente, littéralement, donc la phase qui suit la méditation, il cultive la sagesse qui distingue le mode de diversité, vaste et profond, des objets de connaissance, car elle les purifie principalement du voile déconnaissable, ou du voile qui recouvre cette connaissance de tous les phénomènes. C'est pourquoi la sagesse est posée comme étant double ou comme ayant ces deux aspects, donc de réaliser le mode d'être et de réaliser sa diversité. À ce sujet, il faut comprendre que les trois premiers stances, c'est-à-dire les stances 144 en 146, présentent le point de la double pureté de l'essence et que la dernière stance, la 147, expose le point de la sagesse qui est la cause de l'obtention de l'éveil.
Teme chode remje peme khepen so yin sa drachin khani tarve dava nyava tavta ten so nyumong tale turve nyama tavne teme yin ti ten se oje na den teni to.
Instant 148. Comme un lac aux eaux non polluées, couvertes de fleurs de lotus, comme la pleine lune dégagée de la gueule de Raoult, comme le soleil libéré de l'amoncellement de nuages des passions, cette bouddhéité possède la vision lumineuse, car elle est exempte des souillures et douée des qualités. L'éveil est la libération ultime, comme un lac magnifique dont les eaux généreuses, non polluées et non troublées, sont couvertes de fleurs de lotus, s'ouvrant l'une après l'autre, il est libéré de la passion du désir. Comme la pleine lune dégagée de la gueule de la planète Raoult, il est affranchi de l'état mental afflictif de la colère. Et il est parfaitement libéré du défaut de l'ignorance, semblable à un amoncellement de nuages denses. Pour ces trois raisons, il est comparé à la clarté lumineuse de l'orbe solaire. Cette bouddhéité parfaite possède la vision lumineuse et lucide des modes d'être et de diversité, car elle est exempte des souillures adventices et douée des qualités ultimes de réalisation et d'abandon parfait.
Topa chuncho dranzi nyambo tang, renjin se tang te tang, junba yin, dreme renjin deshi kodang ne, sabda se je zongra jarvani.
149. Le vainqueur est comparé à la statue de Muni, gardien suprême, au miel, au grain, à l'or précieux, au trésor, à l'arbre, à la statue du Sugata faite de matière précieuse et sans imperfection, au maître de l'univers et à la forme en or. Le parfait Bouddha s'est rendu maître des voiles déconnaissables qui sont à abandonner. Comme la statue de Muni, le gardien suprême, dégagé du calice des pétales d'un lotus. Ici, il y a 9 exemples dans ce texte qui illustrent comment cette nature de Bouddha est présente naturellement et parfaitement pure, mais comment en fait elle est cachée ou recouverte par diverses impuretés qui nous empêchent de la voir. Et donc le premier exemple, c'est celui de la statue, une statue de Bouddha qui est cachée à l'intérieur d'une fleur de lotus fanée. Le deuxième exemple, c'est celui du miel séparé des abeilles. Donc le miel est comme cette nature de Bouddha recouverte par un essaim d'abeilles. Le troisième exemple, c'est celui du grain séparé de son enveloppe. Donc le grain est caché à l'intérieur de l'enveloppe qui la recouvre. Donc de même, la nature de Bouddha est dissimulée par ces voiles qu'il faut éliminer. L'exemple suivant est celui d'un morceau d'or précieux qui a été jeté dans un tas d'immondices et qui est donc là pendant longtemps avant qu'on le découvre à nouveau. Il est aussi comparé à un trésor qui est caché sous la terre, sous la maison d'un homme qui est pauvre, mais qui ignore donc la présence de ce trésor sous sa maison. Il est comparé à un arbre qui est issu ou pousse à partir d'une graine, donc un arbre qui donne d'innombrables fruits à partir de cette graine. Il est comparé à la statue de Sugata, une statue de Bouddha qui est faite de matières précieuses et qui elle aussi est cachée dans des haillons, est dissimulée au bord d'un chemin dans des haillons et donc personne ne remarque qu'elle est là. Elle est aussi semblable au maître de l'univers qui est né d'une femme pauvre, donc qui porte en elle en fait un roi de l'univers mais qui l'ignore. Et cet éveil ou ce parfait Bouddha est aussi comparé à une statue en or une fois qu'elle est débarrassée de son moule d'argile. Donc tant qu'elle est couverte par l'argile, on ne voit pas la forme et la beauté de la statue. Une fois qu'on a éliminé son moule, elle apparaît dans toute sa splendeur. Donc de la même façon, une fois qu'on a éliminé toutes les impuretés, tous les voiles déconnaissables, on réalise sa nature de Bouddha, on devient Bouddha.
Sonso soyin de chaso lour nyamun tapan. Dona mato yikike devu yimba rabdujo. Namba kunjin cho denbe sanje kone nito. Dene jili toba yi yikin devu yimba tun.
150. Comme l'eau du lac et autres exemples, la purification du désir et autres passions éphémères est résumée par le nom de fruit de la sagesse non conceptuelle. L'obtention définitive du corps de Bouddha, doté des qualités suprêmes, est présentée comme étant le fruit de la sagesse consécutive à la contemplation. Donc comme dans le cas où les exemples qui ont été donnés, l'exemple du lac aux eaux non polluées et les autres exemples donc de Raoult et du soleil libéré donc des nuages. Donc de la même façon que dans ces exemples, on montre comment la purification des choses qui recouvrent. Donc les trois passions adventices ou les trois kleshas du désir, de la colère et de l'ignorance sont purifiées. Et de quelle manière? En appliquant les trois remèdes de samadhi, de compassion et de sagesse. Donc cette méthode ou cette voie qui permet cette purification, ce résultat, cette méthode pour arriver à cet achèvement est appelé le fruit de la séparation et correspond à la sagesse non conceptuelle, celle qui est donc appliquée et réalisée lors de la méditation. Donc grâce à cette sagesse non conceptuelle pratiquée ou appliquée dans la méditation, on peut se libérer, purifier les kleshas du désir, de la colère et de l'ignorance. Et l'abandon des voiles qui recouvrent la connaissance ultime, l'abandon des voiles des connaissables, permet d'obtenir le corps du Bouddha doté de toutes les qualités suprêmes. Et donc les moyens pour achever ceci, les moyens, cette méthode d'achèvement définitif est présentée comme étant le fruit de la pratique de l'étude, de la réflexion, de la méditation, etc. Donc c'est le fruit de la pratique des sagesses appelées mondaines, basées sur l'étude, la réflexion et la méditation, et qui sont donc des sagesses que l'on développe ou que l'on acquiert à partir de, après avoir donc contemplé, médité. Ce sont les sagesses que l'on développe dans la phase qui suit la phase de méditation. Maintenant, Rinpoche nous demande de relire ses premières stances, donc de la première jusqu'à 150. L'éveil possède 8 dharmas, pureté, obtention, séparation, bien pour soi et pour autrui. Le fondement de celui-ci, profondeur, vasteté, nature magnanime, durée et réalité telle qu'elle est. L'état de Bouddha est présenté en 8 points. Essence, cause, fruit, fonction, possession, manifestation, permanence et inconcevabilité. L'éveil, décrit comme la claire lumière naturelle, est semblable au soleil et au ciel. Il est exempt des souillures adventices, des voiles des passions et des connaissables qui l'assombrissaient comme de lourds nuages. Permanent, constant et éternel, il est doué de toutes les qualités du Bouddha immaculé. Son obtention repose sur la sagesse qui ne conçoit pas les phénomènes et celle qui les distingue parfaitement. L'éveil de Bouddha est constitué de deux dharmas purs inséparables, les deux caractéristiques de sagesse et d'abandon, semblables au soleil et au ciel. Clair et lumineux, non composé, présent de façon inséparable, le corps de réalité possède toutes les qualités du Bouddha, supérieur en nombre aux grains de sable du Gange. Non existant par nature, diffus et adventice, le voile des passions et le voile des connaissables sont comparés aux nuages. La cause d'élimination des deux voiles est la sagesse posée comme étant double, la sagesse non conceptuelle et la sagesse d'obtention consécutive. Comme un lac aux eaux non polluées couvertes de fleurs de lotus, comme la pleine lune dégagée de la gueule de Raoul, comme le soleil libéré de l'amoncellement de nuages des passions, cette bouddhéité possède la vision lumineuse, car elle est exempte des souillures et douée des qualités. Le vainqueur est composé, gardien suprême, au miel, au grain, à l'or précieux, au trésor, à l'arbre, à la statue de Sugata faite de matière précieuse et sans imperfection, au maître de l'univers et à la forme en or. Comme l'eau du lac et autres exemples, la purification du désir et autres passions éphémères est résumée par le nom du fruit de la sagesse non conceptuelle. L'obtention définitive du corps de Bouddha, doté des qualités suprêmes, est présentée comme étant le fruit de la sagesse consécutive à la contemplation. Maintenant, Lama Gyomé va nous réciter ces versets en tibétain. C'est l'instant 143.
Yeah. trois fois. Écoutez bien parce qu'après il faudra qu'on chante en français de la même façon.
Kene phanen se kete no yin de kya.
L'éveil décrit comme la claire lumière naturelle est semblable au soleil et au ciel. Il est exsangé souillure advente des voix des passions et des connaissances qui la sombrissent comme de l'eau nuage permanent constant et éternel. Il est doué de tout l'été du Bouddha immaculé, son attention repose sur la sagesse qui ne conçoit pas les phénomènes et celles qui distinct parfaitement. L'éveil décrit comme la claire lumière naturelle et semble au soleil. Des voix, des passions et des connaissables qui la sombrissaient comme de lourds nuages permanents constants et éternels. Il est doué l'été du Bouddha immaculé, son obtention repose sur sagesse qui ne conçoit les phénomènes qu'il est distinct parfait.
Donc on récite encore une fois et en méditant en même temps que l'on récite cette stance, et on concentre son esprit sur sa nature de façon directe. Et on laisse aller toute prise, on lâche toute prise, on laisse aller tout attachement, donc on laisse l'esprit reposer dans sa nature, dans cette claire lumière, de façon directe et sans s'y attacher. Et donc on médite sur l'aspect de clarté et vacuité de l'esprit.
Yeah.
L'éveil décrit comme la claire lumière naturelle.
Évacuité, la méditation est clarté sans saisie, la conduite un flot sans attachement, le fruit sans souillure est pur dénuement. La vue cette sagesse évacuité risque de se perdre loin dans les paroles, si vous n'avez pas confiance en leur sens, les mots ne vous mèneront pas au-delà de votre attachement à votre ego. C'est pourquoi il est si important d'avoir une parfaite conviction. La méditation, clarté sans saisie, risque de sombrer dans l'immobilité si la sagesse ne surgit pas en vous. Vous demeurerez dans la stabilité, mais ne gagnerez pas votre liberté. C'est pourquoi il est si important d'avoir une attention sans distraction. La conduite se flot sans attachement risque de se perdre en discours prétentieux. Si méditation et vie ne sont pas présents, les huit dharmas mondains se substitueront à votre conduite de pratiquant. C'est pourquoi il est si important de n'avoir ni voile ni attachement. Le fruit sans souillure, ce pur dénuement, risque de se parer des voiles des pensées, si la confusion est détruite du dedans. Du fruit vous cultiverez seulement l'idée, mais votre entendement n'ira pas plus loin. C'est pourquoi il est si important à toute confusion de mettre fin.
Et donc, le sens contenu dans ce chant de Milarepa est le sens exposé dans le Jhulama, dans la continuité ultime du grand véhicule, se rejoignent, sont identiques. Donc il est important de comprendre qu'il s'agit ici donc de la même chose, du même enseignement. Et maintenant nous allons chanter l'autre chant, de l'autre côté, la feuille. Le chant du sens profond est défini.
Le sujet et l'objet abandonné disparaît. Comprendre ainsi la vue est chose excellente. Quand la méditation est flot clair et limpide, inutile de la soumettre aux limites du temps. Le sujet et l'objet abandonné disparaissent. Méditer de tout cœur est chose excellente. La conduite est action dans l'espace lumineux. Les relations dépendantes, il est sur son vacuité. Le sujet et l'objet abandonnés disparaissent. Cette façon d'agir est chose excellente. Quand les pensées multiplient dans l'espace d'ici, adieu rumeurs et secrets, vidama craintes et espoirs. Le sujet et l'objet abandonnés disparaissent. Gardez la parole donnée est chose excellente. Je n'ai plus aucun doute, l'esprit est dans ma cœur. J'accomplis mon bien et œuvre pour celui d'autrui. Le sujet et l'objet abandonné disparaît. Le fruit ainsi accompli est chose excellente.
Anjo de chi lonjo de samata pe changa so jana chula che ba shi tene kin do se ba shi te mala de pe malam de te de te cosa de te chi.
Puissions-nous vivre longtemps, ne jamais être l'objet des maux et maladies. Puissions-nous être libres, ne jamais manquer de rien, vivre dans l'abondance et avoir l'esprit heureux. Vous l'avez, non? Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez le prendre par écrit. Donc la première ligne dit, dans cette vie présente, dans l'abondance et avoir l'esprit heureux. Et dans la vie prochaine, puissions-nous nous rencontrer dans les champs purs des Bouddhas, sphères immaculées, pratiquer le Dharma et adopter la conduite dans le seul dessein de rendre tous les êtres heureux.
Jamais manquer de rien, vivre dans l'abondance et avoir l'esprit heureux. Et dans la vie prochaine, puissions-nous nous rencontrer dans les champs purs des Bouddhas, sphères immaculées, pratiquer le Dharma et adorer.
porté la conduite dans le seul dessein de rendre tous les êtres heureux.
Donc ensemble trois fois.
Dans cette vie présente, puissions-nous vivre longtemps, ne jamais être l'objet des maux et maladies. Puissions-nous être libres, ne jamais manquer de rien, vivre dans l'abondance et avoir l'esprit heureux. Et dans la vie prochaine, puissions-nous nous rencontrer dans les champs purs des Bouddhas, pères immaculés, pratiquer le Dharma et adopter la conduite dans le seul dessein de rendre tous les êtres heureux. Dans cette vie présente, puissions-nous nous relonger, ne jamais être l'objet des maux et maladies. Puissions-nous être libres, ne jamais manquer de rien, vivre dans l'abondance et avoir l'esprit heureux. Et dans la vie prochaine, puissions-nous nous rencontrer dans les champs purs des Bouddhas, pères immaculés, pratiquer le Dharma et adopter la conduite dans le seul dessein de rendre tous les êtres heureux. Dans cette vie présente, puissions-nous vivre longtemps, ne jamais être l'objet des maux et maladies. Puissions-nous être libres, ne jamais manquer de rien, vivre dans l'abondance et avoir l'esprit heureux. Et dans la vie prochaine, puissions-nous nous rencontrer dans les champs purs des Bouddhas, pères immaculés, pratiquer le Dharma et adopter la conduite dans le seul dessein de rendre tous les êtres heureux.
Let's go.